Vous écoutez En profondeur à Sécurité 90.3 FM et on est en présence de Marie-Ève des Apatrides Anonymes. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Marie-Ève.
De quoi tu me parles aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous parle, en se disant qu'on va tourner autour des questions très à la mode du terrorisme. Comme vous le savez peut-être, il y a le fameux projet de loi S7 qui a été finalement adopté la semaine dernière. C'est un projet de loi en fait qui donne de nouveaux outils, soi-disant, là, aux autorités fédérales. Mais c'est un projet de loi, c'est ça, qui a été adopté donc mercredi dernier à 183 voix contre 93 à la Chambre des communes. Donc, évidemment, vous aurez compris que c'est une loi fédérale. Donc, sans grande surprise, conservateurs et libéraux ont voté en faveur de l'adoption du projet de loi et le NPD et les autres partis ont voté contre. C'est un projet de loi, en fait, qui circulait depuis à peu près un an à Ottawa et qui rétablit aux apatrides anonymes pendant nos chroniques, on vous en avait déjà parlé, mais qui rétablit en fait certaines dispositions du code criminel qui ont été en vigueur là, entre 2001 et 2007. Ce qu'on appelle en fait la loi antiterroriste qui a été intégrée au code criminel. Les dispositions qui ont été réintroduites en fait dans le code criminel par l'entremise de cette loi antiterroriste sont, la comparution forcée, c'est-à-dire que si les autorités croient qu'une personne détient des informations sur des activités ou de possibles activités terroristes, puis là, quand je dis activités terroristes, il faut toujours que vous gardiez en tête que ce terme-là n'est jamais défini. Fait que ça peut être très, très vague, là. Je le sais, dans les médias de masse, terrorisme égale islamisme radical et tout ça, mais quand on parle de terrorisme ici, dans cette loi-là, c'est très flou. Ça peut être des activités subversives politiques et ça ratisse large, là. Donc, comme je vous disais, si les autorités croient qu'une personne, donc, détient des informations sur des activités jugées terroristes, les autorités peuvent donc la forcer à comparaître devant un tribunal et à répondre aux questions des juges, avocats, de la couronne. Le tout, évidemment, sans accusation. Ces audiences-là demeurent des audiences secrètes. Et si la personne refuse de se plier à cette comparution forcée, elle peut risquer jusqu'à 12 mois de prison. Ensuite de ça, deuxième disposition qui a été réintroduite, c'est la détention préventive. C'est-à-dire qu'une personne peut être détenue 3 jours sur la simple base de soupçons, là, de se livrer à des activités terroristes ou de détenir des informations en fait, ce qui est plus inusité, c'est que la personne, puis là, c'est encore une fois, c'est sans accusation, sur la simple base de soupçons, fait qu'après ces 3 jours-là, la personne peut être soumise à des conditions de libération qui peuvent s'étendre jusqu'à 12 mois après la mise en liberté. Mais cette mise en liberté-là n'a pas été faite sous accusation. Donc, puis quand on parle de conditions, c'est des conditions là habituelles, genre de pas le droit de communiquer avec telle personne, pas le droit, il pourrait y avoir un couvre-feu, ce genre de choses. Et ces deux dispositions-là sont dites crépusculaires, c'est-à-dire que elles vont expirer dans 5 ans, un peu comme la dernière fois qu'ils avaient été en vigueur, c'est-à-dire entre 2001-2007, le gouvernement devait se repencher sur la question en 2007, on jugeait que là, c'était plus valable. Et donc, ces dispositions-là sont tombées, mais là, on vient de les remettre en application. Donc, ils vont expirer dans 5 ans et chaque année, le gouvernement devra expliquer pourquoi elle est nécessaire puis elle doit être reconduite. Cette loi-là introduit aussi des nouvelles infractions relatives au fait de quitter le Canada pour soi-disant commettre des actes terroristes. Il y a des actes aussi maintenant, certains actes commis à l'extérieur du Canada peuvent faire l'objet d'une poursuite ici au Canada. Aussi, il y a le concept de, comment on pourrait dire, de « aider » là en guillemets au terrorisme dans un autre pays qui devient illégal et qui peut être passible de 14 ans de prison. Mais ça peut être aussi, je sais pas moi, prêter son appareil télé, son téléphone cellulaire à une personne pour, mettons, faire un faux appel à la bombe, mettons, tu sais, ça pourrait entrer dans cette catégorie là. Il y a une autre disposition qui concerne la surveillance électronique, c'est-à-dire que dans le cas des procès ou en tout cas des accusations de terrorisme, les autorités n'ont pas approuvé que l'écoute électronique est vraiment un dernier recours et qui est nécessaire. L'écoute électronique peut être faite pendant un an, puis normalement, une personne a le droit de savoir si elle a été sous écoute électronique, mais là, les autorités, dans ce cas-ci, ont pas besoin d'en informer la personne, et ce, 3 ans jusqu'à la fin de la dite période d'écoute électronique. Certaines sentences aussi sont plus graves, par exemple pour héberger ou cacher, ça c'est vraiment la terminologie là, de la loi telle qu'elle a été réintroduite, héberger ou cacher une personne qui aurait commis un acte de terrorisme, la sentence passe maintenant de 10 ans à 14 ans. Maximum de prison. Évidemment, comme je vous disais, cette loi-là, bon, ça circulait là, les intentions du gouvernement conservateur de réintroduire les deux toutes ces dispositions-là dans le code criminel. Mais le gouvernement a décidé de ramener le projet aux communes vraiment à leur dernière minute. Et quand? Lundi, c'est-à-dire le lundi. Donc, ça a été débattu pendant 2 jours seulement. À la Chambre des communes, c'est que le gouvernement conservateur a ramené ça le jour même en fait où les autorités ont annoncé avoir déjoué un soi-disant complot terroriste. Donc disons qu'ils ont le sens du timing, les conservateurs. Alors peut-être qu'avant de passer à mon prochain sujet, on pourrait y aller en musique.
Oui, on va écouter la chanson Sous contrôle du collectif Marie Ride.
Autrefois existait cette chose étrange que l'on appelait espace public. Près des arbres et sous leurs branches rencontraient les impudiques. Sur l'agora ou dans les ruelles de Paris s'organisait la révolte du peuple et des petits. La société de la discipline où enfermait ou exilait les disciples de Kropotkin. Vint la modernisation avec sa culture et sa surinformation. Le pouvoir, les décideurs trouvèrent l'arme télévision pour nous enfermer dans la peur, le mensonge, la lobotomisation. Et ils appeler ça instrument de communication alors qu'il n'y a qu'un sens de circulation. Ils nous crachent dans la bouche leur propagande et nous avalons. Bien heureux de pouvoir se rendre en famille chez Auchan. Dès l'enfance on donne un rôle, pose pas de questions, joue le bêtement, immergé intégralement, aveugle pion de la société de contrôle.
Contrôler un monde dont la force est l'ignorance, où la terreur abonde et où le présent est non-sens. Passé estropié et futur interdit, société sous contrôle où la pensée est un symptôme de maladie. Et décrit pour gommer les différences, vider l'être de son humanité et en faire arborance. L'arborescence effectuée en contrôlant ton ADN, que les esprits deviennent adorateurs pour correspondre au modèle. Surveillé dans le privé, l'intime, l'individu perd l'étincelle et devient un être servile. Et les signes de vie ruissellent, et puis s'estompe en une sorte de sommeil éternel, rentre dans le schéma du système. L'histoire fait flipper à l'extrême, comme si des signes avant-coureurs de ce genre de monde étaient si blêmes. Sélection génétique pour résoudre les problèmes, cartellement électrode pour faire obéir sur le long terme. La race humaine a pris du ferme, en misère interdite. N'ai plus de sentiments, on me les a interdits. On m'a lavé le cerveau et m'en servir, on me l'a interdit. On m'a dit de suivre un modèle et j'ai obéi. Je suis un rouage de la machine, j'ai ma place dans cette industrie. Ma vie ne se résume qu'à surveiller mes congénères. La gueule devant mon moniteur, je génère des tonnes de rapports, y compris sur mes confrères. La délation coule en moi comme le sang dans mes artères. J'ai oublié ce qu'était mon passé, effacé toute trace de ce que pouvait être la liberté. Je n'ai même plus besoin de regretter. Quelqu'un s'occupe à ma place de ce que je dois penser dans cette société. Je me dis que je suis indispensable, pas comme le mec d'à côté qui n'était pas assez rentable.
Vous écoutez toujours En profondeur à Sécurité 90.3 FM. Il est 17h55 et on est toujours avec Marie-Ève qui a un autre sujet pour nous.
Oui, dans la même suite logique que la loi antiterroriste, je vais vous faire une petite mise à jour, en fait, du dossier du cas d'Omar Kadar. Vous savez, ce jeune homme qui a été arrêté à l'âge de 15 ans en Afghanistan en 2002 qui a été détenu à Guantanamo, celui de Cuba, jusqu'en septembre dernier, moment où il a été transféré au pénitencier de Mill Haven, près de Kingston, en Ontario, pénitencier qu'on a maintenant, qui est maintenant surnommé le Guantanamo du Nord. En fait, bon, là, je vous ramène un peu dans le temps, là. Il avait plaidé, Omar Kadar avait plaidé coupable là, devant un tribunal militaire. Une espèce de négociation pour négocier sa sentence. Avait plaidé coupable, comme je le disais, devant un tribunal militaire à des chefs d'accusation de meurtre, terrorisme et espionnage. Donc, en échange à la fois d'un transfert à Ottawa. Puis, il avait, dans cet échange-là, il acceptait aussi de facto de ne pas porter en appel la décision du tribunal militaire au Canada. Là, par contre, lui et ses avocats portent sa condamnation en appel devant un tribunal civil aux États-Unis. Vous comprendrez le pourquoi, parce que dans son bargain, Omar Kadar avait accepté donc de ne pas le faire au Canada. Donc là, ils le font aux États-Unis devant un tribunal civil. Ses avocats espèrent avoir gain de cause, comme dans deux autres cas de soi-disant proches collaborateurs de Ben Laden, qui avaient été déclarés également coupables par un tribunal militaire à Guantanamo. La base de l'appel, c'est que les avocats se basent sur le fait que la loi, que je pense que c'est le Patriot Act, il me semble, qui a institué ce truc-là, mais qui avait été instauré sous Bush en 2001, qui en fait instaurait des tribunaux militaires pour des crimes de guerre. Faisait donc de combattants ennemis des non-soldats, c'est-à-dire que des civils pouvaient être considérés comme combattants ennemis, blablabla. Donc, quand les gestes auraient été posés par Omar Kadar en Afghanistan, cette notion-là de crime de guerre dans le droit international n'avait pas été encore établie parce que, bon, évidemment, la guerre au terrorisme, c'est pas une guerre entre deux États, c'est pas une guerre. Donc, il y avait comme une espèce de flou juridique, si on veut, au niveau du droit international. Et donc, comme cette notion-là n'existait pas au moment de l'arrestation de Omar Kadar, les avocats vont plaider que la notion, donc, de crime de guerre, dans ce cas-là, n'est pas valable. Et donc, que la condamnation n'est pas valable parce qu'elle a été devant un tribunal militaire et non pas devant un tribunal civil. Donc, c'est un peu compliqué, là, mais ils sont assez confiants. Donc, les avocats sont assez confiants de pouvoir gagner la cause. Évidemment, c'est des procédures qui pourraient prendre des mois et des mois, peut-être des années. En attendant, Omar Kadar va être admissible à une libération conditionnelle ici au Canada en juillet, puisqu'il sera rendu à un tiers de sa peine qui totalise 8 ans. Mais ça regarde mal, disons, pour l'instant, pour Omar Kadar, parce que la veille, en fait, que cette nouvelle est sortie, comme quoi que Omar Kadar allait porter en appel sa condamnation, la presse canadienne a appris que le ministère de la Sécurité publique canadien, Victez, est intervenu pour empêcher que Omar Kadar soit interviewé par la presse canadienne. Normalement, la demande avait reçu le feu vert de la direction de la prison, c'est-à-dire du pénitencier de Mill Haven. Ça devait être une entrevue téléphonique. Puis la direction régionale aussi des services correctionnels avait également donné le feu vert à cette entrevue-là. Puis habituellement, c'est vraiment le directeur d'établissement qui a le dernier mot. Donc là, on voit effectivement, c'est un cas flagrant là, d'interférence. Puis, bon, pourquoi je dis que ça regarde mal pour Omar Kadar, c'est que si Victez le fait une ingérence politique comme celle-là auprès des autorités carcérales, pourquoi est-ce qu'il se priverait de le faire auprès des tribunaux puis du système judiciaire? Donc, on verra ce que ça donne là en juillet. Sûrement qu'on vous tiendra au courant des développements.
Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, on vous revoit dans deux semaines.